Ce qu'il dit dans son introduction, c'est, après 9 ans à la tête de cet organisme-là, le diagnostic sur la désindustrialisation de la France n'est pas partagé. C'est-à-dire, les avis sont divergents de tous les experts. Et il dit, pour essayer de remettre le truc sur le papier, sur la table, je vous raconte en introduction la façon dont je vois les choses, hein, et puis dans une deuxième partie, qui fait 80% du bouquin, je mets des interviews de Pierre-Paul Jacques. On n'aura pas le temps de. Je ne vais pas annoncer toutes les lignes de toutes. Et j'ai déjà fait un résumé de leur contribution. J'irai directement à la fin. J'ai essayé de saisir, de synthétiser les thèmes qui avaient été abordés dans toutes les interviews, et puis qu'on les passe un petit peu plus en revue ensemble, puisque l'objectif de cette séance, c'est pas d'écouter Fournier qui raconte le bouquin qu'il a lu, c'est de discuter, quoi. Hein, voilà. Mais il faut quand même, pour reposer un petit peu le sujet, faire un petit exercice d'exposé. Alors, j'ai ajouté, donc je vous l'ai tous envoyé, j'ai ajouté une prose perso où j'ai dit ce que je pensais de la chose sur la désindustrialisation, qui recoupe dans beaucoup de cas ce qui s'est dit là-dedans, mais c'est ce que j'ai vécu en tant que professionnel, puisque j'étais dans l'industrie, j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie, donc j'ai une vision très étroite, on va dire, à travers mon expérience personnelle. Donc on pourra éventuellement piquer là-dedans quelques thèmes qui ne sont pas vraiment évoqués dans le bouquin de Dufour. Évidemment, on ne peut pas parler de tout. Hein. Voilà. Alors, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà la structure du bouquin. Donc, 20% du livre, c'est le prologue. Et qu'est-ce que c'est que le prologue? Eh bien, c'est l'historique de 70 à maintenant, tout ce qui s'est passé, et les évolutions au niveau de l'industrie. Et puis, comme il y a un plan qui s'appelle industrie, je sais plus comment ça s'appelle, industrie 2020, 2030, France 2030, bon, ben, on est en 2022, voilà comment ils voient les choses. Et ensuite, donc, il y a quelques politiques, surtout beaucoup d'entrepreneurs, des grosses et moyennes entreprises. J'ai mis, c'est moi qui ai mis, qui ont réussi. Parce qu'évidemment, celles qui se sont plantées, ils n'ont pas été interviewés. Hein. C'est dommage. Voilà. Les syndicalistes, il y en a deux. Bon, je vous dirai ce que j'en pense. Banquiers, économistes et fonctionnaires, hauts fonctionnaires. Et conclusion. Ça vaut quand même le coup d'aller quand même rapidement à travers le prologue. Donc, années 60, on connaît tout ça, hein. Je rappelle que l'inventeur de l'autorisation administrative de licenciement, c'est monsieur Jacques Chirac. Hein. Jacques Chirac, quand il était secrétaire d'État sous Pompidou, il a à l'emploi, je crois, ou du travail, ou je ne sais pas quoi, et il a inventé l'ANPE, c'est lui qui a inventé l'ANPE, et ensuite, il a inventé, quand il est ministre de Giscard, l'autorisation administrative de licencier, qu'il a lui-même supprimée en 1986 quand il est redevenu Premier ministre. C'est Chirac, c'était un spécialiste de faire tout et son contraire dans son action politique.
Ce qui peut justifier à cet argument.
Comment? Ben, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis.
Non,
Voilà.
c'est. Ouais, je sais pas, je vois pas les choses comme ça,
Mais.
c'est quand même. Je ne cherche pas à le défendre.
Oui.
Alors là, ça ne comprend pas. J'ai pas bon souvenir d'individu. Mais simplement, c'est les conditions historiques qui changent.
Oui.
Voilà, c'est-à-dire que je comprends très bien qu'un ministre, un certain moment, mette en place quelque
bien
chose,
sûr.
Et puis, ouais, peut-être un peu moins de 20 ans après, ils disent bah, les conditions ont changé. Oui, c'est pas absurde.
Bien, alors, années 80, ben, on connaît tous, donc c'est l'arrivée de François Mitterrand, cinquième semaine de congé payé, les 39 heures, les nationalisations, l'impôt sur les grandes fortunes, et les 12 dévaluations entre 80 et 97, vous en avez parlé. Montée en gamme des pays du Nord, culture libérale des élites, c'est ce qu'on appelait la désinflation compétitive, hein, vous l'avez évoqué dans votre conférence. Hein. Les PME, on n'en parle pas, on ne sait même pas qu'elles existent. Hein. C'est complètement absent du discours politique. Hein. L'acte unique 86, Jacques Delors. Année 90, chute du mur. Et là, on commence à faire des timides baisses de charges. Hein. Mais la gauche, comme toujours encore aujourd'hui, demande des contreparties. Et on ne voit pas venir la Chine. C'est pas moi qui parle, hein, c'est Dufourcq. Hein. On ne voit pas venir la Chine, alors que la Chine était déjà sur une trajectoire comme ça. Les concurrents, c'est les USA, le Japon, la Corée. Et pourtant, c'est bizarre, le textile disparaît, alors que ça va en Chine, mais personne n'en parle. Pas vraiment.
Hein. On en parle quand même, parce que c'est quand même c'est tout le nord de la France qui est touché.
Oui, oui, mais enfin, il part. Donc, c'est les salauds de patrons qui nous laissent tomber. Il y a des témoignages comme ça qui...
Ah oui.
Les syndicalistes en particulier disent ça. C'est pas de la faute de la Chine, c'est de la faute des patrons. Un peu des deux.
C'est surtout la mondialisation.
Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bon. Refus psychologique de la politique industrielle, ça c'est les Allemands, hein, par tous les pays d'Europe, et les élites françaises. Et donc on est passé de la période, on va dire, du plan Le Sourme, les gars comme ça, hein, et d'ailleurs le truc a disparu, il y avait encore l'aménagement du territoire qui était un petit peu, puis là, on a ressorti Beyrouth ça, comme un petit lapin rose pour lui redonner un simili-plan, là. Mais ça, pendant 30 ans, on n'a plus eu de plan en France. Hein.
Maintenant, comme politique industrielle, on a les pôles de compétitivité.
Oui. Donc, le seul succès, le nucléaire et l'aérospatial, mais pour des raisons particulières assez domaines. L'échec du plan de machine-outils et du plan électronique. Vieillissement moyen des patrons de PME. Valse des ministres de l'industrie, c'est-à-dire ça ne sert à rien, puisque la durée de vie moyenne d'un ministre de l'industrie, c'est moins d'un an. Hein. C'est encore pire que le ministre de l'Éducation nationale. Année 2000, accord sino-américain, et la Chine rentre à l'OMC. C'était la condition demandée par les Chinois pour qu'il y ait une coopération, entre guillemets, entre la Chine et les États-Unis. Et là, les politiciens européens découvrent un peu la chose, au sens institutionnel. Le passage à l'euro devrait motiver les politiques pour des réformes de l'État, puisque maintenant on ne peut plus dévaluer, donc on n'a plus l'arme fatale de la dévaluation. L'Allemagne équipe la Chine en machines fournies par le Mittelstand. Donc en fait, quand on dit l'Allemagne c'est dégueulasse, ils font des trucs. Ben parce que qui est-ce qui fait des machines de tout poil? C'est les Allemands, c'est pas les Français, puisque nous on savait plus faire de machines. Et en particulier, on savait pas les vendre. Les réformes Schröder, les baisses de charges, le fameux Hertz, qui était le DRH de Volkswagen, qui a donc été missionné par Schröder pour dire ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend la solution de. Des jobs à un Deutschmark, non, un euro. ce qu'on appelle en français les bullshit jobs.
Moins de 400 euros.
Oui, oui. Les bullshit jobs, ça veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, ça veut dire les boulots de merde. Voilà. Hein? Bullshit, ça veut dire la merde. Hein? Au lieu de chômage à la maison. Donc pas d'alloc. Les gens, on les met au boulot, payés à coups de pied aux fesses, mais ils sont dans le monde du travail. Ils ne sont pas à temps à la maison. Ça n'a pas enthousiasmé les foules, hein? Mais c'est ce qui s'est passé. Et les gens l'acceptaient, souvent les Turcs, bien évidemment, parce que les immigrés. Et il s'est passé enfin quelque chose, disons, dans le deuxième septennat, le quinquennat de Chirac, c'est la réforme Dutreil. On reviendra sur ça. Donc la réforme Dutreil, c'est la réforme de l'impôt sur les successions, c'est-à-dire la transmission des PME familiales. Les impôts de succession étaient astronomiques, qui faisaient que les gens étaient obligés de vendre ou de fermer. Voilà. Maintien de l'omniprésence des grands groupes qui ne gèrent pas les filières aval, parce qu'on voit que les grosses sociétés, les PME, ça n'existe pas. Maintien du consensus paritaire pour augmenter les cotisations sociales. Donc les charges augmentent. Mais il y a un consensus pour augmenter les charges. Dufourcq dit l'euro n'est pas responsable. Donc on verra que cette analyse n'est pas partagée par tous. C'est-à-dire il y a certains qui disent qu'au moment où on a fait le passage à l'euro, on était surévalué par rapport au Deutsche Mark. Ce qui n'est pas complètement faux, mais enfin ça n'a pas été complètement déterminé.
Bah, l'Allemagne aurait voulu que ce soit le Deutsche Mark, hein, la monnaie européenne, hein, quand même.
Oui, mais enfin, ça revient à ça. C'est-à-dire
que.
Ça revient à ça. Et surtout, la gauche n'est plus ouvriériste, mais compassionnelle, sous l'influence, entre autres, de Bourdieu. Donc,
Était-il de gauche?
C'est encore une fois Dufourcq qui parle. Hein.
Oui, donc ça veut dire qu'il n'a pas lu Bourdieu. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est bien un énarque.
Oui, bon.
Moi je l'ai lu Bourdieu. Dire que Bourdieu n'est pas ouvriériste et compassionnel, c'est qu'il n'a rien compris.
Bon.
Ça garde.
Okay. Il explique l'origine des 35 heures, c'était la philosophie du partage du travail. L'heure fut du changement du modèle social, les grandes grèves de 95, c'est-à-dire on veut garder les avantages sociaux tels qu'ils sont à l'instant T. Il dit quand même, il y a une écrasante majorité des témoignages qui disent que les 35 heures ont été le début du phénomène de désindustrialisation, même si ça n'est pas forcément la cause, mais ça a accéléré le processus. Quand est-ce que ça a commencé? Donc les avis sont extrêmement divergents, et en particulier vis-à-vis de moi. Moi, je date le début du phénomène de 1970. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Mais il y a beaucoup de gens dans les hautes sphères qui disent que c'est en 2005 que ça a commencé. Effet funeste des politiques d'achat des grands groupes français. Donc la fonction d'achat, et c'est pas Jean-Pierre qui va me dire le contraire, elle a pris une importance. C'était une fonction qui était administrative jusqu'aux années, on va dire, 70 dans les entreprises. C'était des bureaucrates qui passaient des bons commandes, quoi. Et la fonction d'achat est devenue une fonction de management. Et donc on a vraiment pressuré toute la chaîne aval, aussi bien dans l'industrie que dans le commerce. Bon, ben, c'est les grandes surfaces. Toutes les grandes surfaces se sont faites sur ce modèle d'acheteur très, très dur. Voilà. Refus social de l'industrie en France. Bon, faiblesse au sommet. On parlera du fameux faiblesse de M. Tchuruk. Hein. À la base, l'industrie, c'est sale et méchant. Je me souviens toujours des témoignages du chef des travaux du lycée Niepce qui me disait, je lui disais, visitez les ateliers, là, vous êtes vachement bien équipés, les gosses veulent venir. Non, mais les gosses, ils veulent bien venir, c'est les parents qui ne veulent pas qu'ils viennent. Donc, dans l'enseignement
technique. C'est le problème de la formation. Oui,
oui. Moi, j'en ai bavé à l'usine, donc l'image négative de l'industrie qui a été vécue par les parents est reportée sur leurs enfants et leur dire mais non, faut faire le bac général et puis tu auras un bon job et tu seras bien payé. Voilà. Non, je caricature.
Non, mais c'est pas une caricature, et ça en devient très grave. Moi, je vois, j'ai des cours en classe préparatoire école de commerce. Ça fait 15 ans, tous les ans, je fais le sondage. Dans quoi voulez-vous travailler ?
Et alors ?
J'ai des réponses unanimes, toujours. C'est soit la finance,
oui.
Soit l'événementiel.
Oui.
Et comme je leur dis, mais la prochaine guerre, qu'est-ce qu'on va faire ? On va envoyer Mickey plutôt pour nous défendre. C'est-à-dire que j'ai aucun étudiant qui passe les écoles de commerce importantes qui a ce projet de dire bah, tiens, j'aimerais bien me mettre au service de l'industrie.
Oui. Mais le mot n'existe plus.
Et ce qui va avec, c'est que les filières techniques, quand on regarde les effectifs,
Ça fond comme neige au soleil.
Mais c'est hallucinant.
Ouais.
Je mange de temps en temps avec mes collègues d'école d'ingénieurs de Besançon. Ils me disent, mais on remplit l'école aujourd'hui avec des étudiants qui viennent de l'étranger. Des étudiants français. En plus, Besançon, c'est une école mécanique.
Oui.
Travailler dans la mécanique, les parents disent mais non, si t'es bon en maths, tu vas pas aller travailler, faire une école d'ingénieur dans la mécanique, tu vas aller bosser dans la finance.
Ouais.
Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que c'est le point le plus important. C'est en France que l'écart entre les salaires et la Grande-Bretagne, l'écart entre les salaires entre la finance et l'industrie à même niveau de formation
est le
plus élevé. En Allemagne, l'écart est très très faible. Ce qui fait que l'élite, elle n'hésite pas à se lancer dans des études de technologie.
C'est la suite de son prologue, il dit ça, hein, voilà. Choc violent de la concurrence chinoise. Il le dit, un Xi Jinping peut succéder à une Jitao. Je ne sais pas si je n'ai pas fait une erreur de... Enfin, c'est sûr que le dirigeant d'avant de Xi Jinping était beaucoup plus ouvert sur la coopération avec l'Occident. Et là, c'est le principe des systèmes autoritaires. Et donc, on ne peut jamais faire de spéculation sur quel va être le successeur et quelle va être son attitude vis-à-vis de son environnement extérieur. Et on a dit les Chinois, ils sont tout juste bons à copier. Ben non, c'est pas vrai. Ils sont aussi intelligents que les autres, sinon plus. Ils sont surtout bosseurs. Hein. Et ça, j'ai pu le vérifier moi-même. Et donc, pourquoi le miracle chinois, ça, c'est ce que Véron, un de nos conférenciers célèbres, nous disait tout le temps, spécialiste de la Chine. Il a dit, mais il n'y a pas de miracle chinois. Les Chinois, pourquoi ça marche ? Parce qu'ils bossent. C'est aussi bête que ça. Voilà. Pillage des technologies, c'est vrai. Accord multifibre, alors là voilà l'accord multifibre, alors ça c'est la grosse connerie qu'on a faite, c'est l'accord multifibre, c'est un accord qui, il y avait des quotas jusqu'au milieu des années, début des années 2000, je ne sais plus la date exacte, hein. Et puis après on a dit non, c'est la concurrence mondiale, et évidemment si c'est la concurrence mondiale, et bien tout le textile... de la filature jusqu'au produit fini s'évapore complètement de tous les pays industrialisés.
Je crois que la fin de l'accord multifibre c'était 2013 sur les dernières étapes. Voilà, les dernières étapes, mais le mal avait déjà.
Et donc il cite un exemple, Boussac quand il a tout fermé, il a fermé, mais il a vendu ses machines aux Chinois. Les Coréens ont dit on vend jamais nos machines, même au Vietnam. On les garde chez nous, voilà.
Avec les techniciens, en plus.
Bah oui. Alors, suppression des prix mini de la politique agricole commune, on a tué les deux tiers des sucriers français. Alors, il y a un ancien de l'industrie sucrière, il a dit, c'est pas vrai. Il y a une consolidation, une concentration, oui. Mais...
il y a une diminution de 50% des usines. Il y a actuellement 25 sucreries en France. Ouais. Il y en avait, en gros, 50. en 1990.
Il y avait mis une
chaleur. Ouais. Et les capacités de production ont été absorbées. Il y a eu des concentrations et des capacités donc supplémentaires qui ont été faites dans les grosses usines, maintenant, les gros bêta.
Ouais. Ouais.
Voilà.
Alors ensuite.
Et on traite 25 000 tonnes de betteraves par jour, 30 000 tonnes, vous voyez, c'est énorme. Quoi.
Alors, il cite quand même des noms, il va directement, c'est plus facile, il est mort maintenant, donc Chirac n'est pas intéressé par l'économie et l'industrie. C'est pas un scoop, mais il le dit, et c'est écrit dans un bouquin. Hein, voilà. Et en particulier, pour des raisons purement politiques, il refuse la remise en cause des 35 heures contre tout son entourage qui le pousse à les remettre en cause. Il a dit, ah ben non, c'est un avantage acquis, vous allez avoir une guerre sociale, donc on n'y touche pas. Il accepte quand même la loi Dutreil. Alors, on a une interview de Dutreil, donc tout le monde s'accorde et tous les témoignages disent ça a été un progrès substantiel pour la pérennité du tissu des PME. Il n'y a pas que ça. Mais
c'est quoi la loi?
La loi Dutreil, c'est de baisser considérablement les droits de succession au moment de la transmission.
Des PME. Oui, les droits de succession.
Si vous posez la question, ça veut dire qu'elle n'est pas si connue que ça.
J'ai vu déjà tout à l'heure.
Un contrat qui oblige les parties pendant 5 ans à conserver l'entreprise. Alors ça vaut aussi bien pour l'industrie, le commerce ou l'agriculture.
Ouais.
Donc il y a eu, il commence à y avoir une amorce de financement public d'une banque publique d'investissement, hein, et aucun dirigeant des grands groupes à l'époque qui ont réussi ne vient de la sphère publique. C'est-à-dire c'est une critique implicite contre l'énarchie conquérante, etc. Crise des subprimes, on en a parlé longuement, fermeture massive d'usines. L'automobile française est atteinte pour la première fois, alors qu'on avait dit, est atteinte, c'est-à-dire que c'est la délocalisation à outrance. Elle est atteinte au sens, tout se tire en Roumanie, au Maroc, etc. Et surtout, les équipementiers de rang 1, parce que ça, c'est une chose qu'on connaît moins. Dans l'industrie automobile, il y a des... je fais allusion à Valeo et Faurecia, par exemple, qui sont des grandes entreprises. Et ceux qui font le serrage de vis comme ça, plus que les Renault ou PSA, c'est les équipementiers de premier niveau. Et donc en Allemagne, on sait très bien qu'on garde un noyau dur, le fameux Mittelstand, qui est essentiellement basé sur des entreprises familiales qui ont un financement local avec les Sparkassen, donc les caisses d'épargne locales. Et comme c'est un État fédéral, on l'oublie souvent. C'est un État fédéral, mais c'est une réalité dans le fonctionnement économique. On dit toujours Madame Merkel n'a pas décidé ci, Madame Merkel n'a pas fait ça, ou Madame Merkel, elle est le chancelier d'un État fédéral. C'est-à-dire, elle ne peut pas prendre sur elle-même des décisions, en particulier budgétaires, sans passer obligatoirement devant le Parlement. Donc, elle n'a pas l'omnipotence d'un président de la République française. Au sens des droits politiques. Alors,
Il n'a pas le 49-3, vous voulez
dire? Alors, ce qu'il dit, il faut écouter. Donc, absence de consensus sur les causes de la désindustrialisation, et ça motive l'écriture de cet ouvrage. Écouter les acteurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de témoignages. La responsabilité, elle est générale. Des politiques aux industriels et à tous ceux qui sont dans l'industrie, et la société française n'aime pas l'industrie. Donc ils disent on essaye de remonter la pente, on fait la French Fab, alors ça c'est des trucs des marques, France 2030, c'est mieux que de ne rien avoir du tout. On ne reconstruira pas ce qui a disparu, il faut aller vers des choses nouvelles. On ne veut pas faire la sidérurgie, on ne veut pas faire. Et retour à un consensus européen, parce que même les Allemands, qui eux étaient farouchement hostiles à l'idée même d'une politique industrielle, avec les événements récents, ne serait-ce que la guerre d'Ukraine, commence à se dire finalement, faut peut-être quand même qu'on voit un petit peu notre position. J'ai beaucoup pratiqué les Allemands, une grosse différence de comportement entre les Allemands et les Français. Les Français sont impulsifs et imaginatifs, en étant gentils. Hein. Les Allemands sont rationnels et réfléchis, c'est-à-dire dans des négociations, quelles qu'elles soient, à tous les niveaux, des négociations au niveau étatique, jamais un Allemand ne changera de position entre 9h du matin et 5h du soir. Parce que s'il change de position pendant le déroulement de la séance, c'est renier la préparation de la réunion de négociation qui a eu lieu avant. Nous, on va dans les réunions de préparation, dans le meilleur des cas, on dit que c'est préparé, et on est opportuniste. C'est-à-dire, on change plusieurs fois, je l'ai vécu moi, on change plusieurs fois d'avis, et ça désempare complètement les Allemands. En disant, mais comment ça se fait qu'il me disait ça ce matin à 9h du matin, et puis à 14h, il me dit l'inverse, en apportant des arguments. Et un Allemand n'acceptera jamais, en public, de dire ça. Et ils nous ont fait le coup plusieurs fois, moi je l'ai vécu. On sort furibard de la réunion, parce qu'à la fin, à l'époque, il y avait encore les transparents, hein, la dernière slide, c'est celle de 9h du matin. À 5h du soir, c'est celle de 9h du matin. Alors qu'on avait l'impression qu'on les avait convaincus qu'il fallait changer d'avis. Alors, on sort furibard, on vient 15 jours après pour la même réunion de négociation, puis là, on a les flingues dans les poches, et disons, à la première parole qu'ils vont dire, on passe tout le monde à la Kalachnikov. Donc on est tous comme ça, vachement tendus. Ils posent la slide de numéro 1, c'est la position des Français de 15 jours avant. Voilà. Ça, c'est le mode de fonctionnement allemand. Toutes les décisions sont prises en concertation avant les négociations. On ne négocie pas en séance.
Oui, puis je pense qu'il y a quelque chose contraire à l'énergie que j'ai évoqué tout à l'heure. Je crois qu'il y a une personne dont il faudra brûler l'image en place publique, c'est Ambroise Roux, le PDG de la CGE, qui est un des principaux responsables de la désindustrialisation en France. Oui. C'est lui qui a poussé Giscard d'Estaing à faire exploser la société qui avait été créée entre CGE, Siemens et le troisième, je ne sais plus, qui était censé bâtir l'informatique européenne. Ouais.
Hein, c'était Philips, je crois.
C'est possible que ce soit
Philips. C'était Philips.
C'était sans doute Philips. Ouais. Et puis bon, il y avait aussi Thomson qui était un petit peu dans les tuyaux. Tout simplement parce que cette société dans l'informatique, en fait, prévoyait déjà l'Internet. C'est-à-dire que toutes les bases d'Internet sont nées en France,
oui.
D'accord, et au CERN, au CERN à Genève. Et donc, en fait, c'était de dire, on va marier l'informatique et la communication. Oui. Et en fait, Ambroise Roux ne voulait pas en entendre parler. Lui, ce qu'il voulait, c'était marier la communication et la téléphonie. D'où notre ridicule militaire. Et le problème, donc, c'est que dans un premier temps, la création de l'entreprise a été basée sur un consensus. CGE abandonnait toute tentative de conquérir des parts de marché en Allemagne. Siemens abandonnait toute tentative de conquérir des parts de marché en France. L'idée, c'était, voilà, puisqu'on va être en commun, on se renforce chacun sur notre territoire. Et puis, sauf que Siemens a respecté le contrat, la CGE n'a pas respecté. Et après, Ambroise Roux, qui avait financé la campagne de Giscard d'Estaing, Ubu quitte à faire roi, lui a ordonné, parce qu'en fait c'est ça, Hein, les industriels et les banquiers ordonnent au chef d'État ce qu'ils doivent faire, lui a ordonné de faire exploser cette entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est revenu pendant 30 ans dans toutes les négociations entre la France et entre la France et l'Allemagne quand il s'agissait de remettre en place une politique industrielle. C'est-à-dire que ce que vous pouvez ajouter par rapport à ce que vous dites qui est profondément juste, c'est que les Allemands sont rancuniers.
Oui, c'est vrai.
Mais ça, voilà, qu'on me parle de ça, je veux bien. Après, qu'on me dise que les 35 heures sont responsables des industrialisations.
Non, mais ça n'a fait une couche en plus, quoi, les 35 heures. Mais...
Surtout la loi, les lois, c'est la concurrence déloyale.
Bon.
Mais c'est vrai que ce que vous dites sur le...
Il y a un chapitre très détaillé sur Péchiney. Alors, il se trouve que on avait... Je connais deux personnes qui étaient des cadres. Donc, il y en a un qui a été à l'UTB il y a quelques années. C'est Alain Dauvillère, qui est un gazard qui habite à Chalon, qui était dans une usine mais il a été aussi directeur de l'ENSA McLuny il y a une dizaine d'années. Hein. C'est un bon copain, voilà. Et il a dit, je lui avais demandé de venir à la précédente réunion, puis il a dit, maintenant je suis pas libre, je peux pas venir. Donc, je vous propose que le deuxième, c'est Serge Rassovlev, c'est le mari de Françoise, qui était directeur des ventes de Péchiney dans les pays de l'Est, puisqu'il est russophone. Hein. Et donc ils ont vécu eux la déconfiture de Péchiney et qui est un cas d'école tout à fait qui est expliqué là dans cette slide, hein. Et voilà comment des mauvaises décisions au niveau supérieur des entreprises et de l'État ont fait que le numéro 1 français est devenu a été avalé tout cru par les gars qui sont marqués, donc le dernier de la bande, c'est Alcan, voilà. Et donc la menace, la dernière menace, c'est que Dunkerque, qui est la grande usine d'électrolyse de machin, qui était l'usine pilote monde entier de l'analyse, elle avait le vent en poupe jusqu'à ce que M. Poutine attaque l'Ukraine et que le prix de l'électricité soit multiplié par 4. Donc on dit maintenant, elle va aller au Canada. Et on ne fera plus d'aluminium en France. Ah, ensuite, les témoignages des politiques. Donc, Dutreil... je vais passer très vite parce que c'est très fastidieux là, donc vous lirez, enfin, ou si vous ne l'avez pas déjà lu, je vais aller directement dans, j'ai essayé de faire une synthèse tout à fait à la fin. Voilà. Non, pas ça. Non, c'est pas ça. Voilà. Quels sont les thèmes qui sont abordés autour des entrevues? Donc, manque de stratégie à long terme, bon, c'est un peu des tartes à la crème, absence de réinvestissement permanent. Alors ça, c'est un truc qui revient très fort dans tout ce qui est PME, petite et grosse PME. Et les témoignages qui sont là, à 50%, c'est de dire, moi j'ai bossé comme une bête, et tous mes bénéfices, j'ai jamais distribué de dividendes, et j'ai tout remis en permanence dans la société. Pour m'adapter et me développer.
C'est le contraire de ce que vous dites, là.
Hein ?
Vous dites absence de réinvestissement.
Non, mais il y a des gens qui... Non, c'est ce thème-là. C'est-à-dire, tout le monde ne l'a pas fait. Ceux qui l'ont fait, ils s'en sont trouvés bien. Ceux qui ne l'ont pas fait, ils ont eu des problèmes. Mais ceux qui ont eu des problèmes, ils n'ont pas été interviewés. C'est le principe de faiblesse de la R&D, donc ça c'est aussi une ancienne de tous les médias, hein, en disant, oui, comme ils ne gagnent pas assez de sous, ben, ils ne font pas de R&D. C'est vrai, mais pour faire de R&D, il faut avoir envie de la faire. Ça a l'air idiot, mais c'est un petit peu comme ça, et il y a beaucoup de patrons qui ne sont pas fans de la R&D. Hein. Style de management, donc la critique un peu générale, et même il y a de l'autocritique des gens en disant on a toujours un peu des systèmes de management à la militaire, trop traditionnels, etc. faiblesse de la maîtrise de l'anglais. Générale. Ça, c'est vrai. Ça, je peux témoigner. On l'a vécu, c'est pas Jean-Pierre qui me dira le contraire. Donc à Saint-Marcel, disons, on va dire jusqu'au milieu des années 90, bon, on va dire, il y avait 5-10 cadres qui parlaient à peu près bien anglais, et puis à peu près autant de, et en comptant bien, de techniciens supérieurs. Pas d'ouvriers, rien du tout, machin. Hein. On a eu les contrats Chine, où il a fallu envoyer des troupeaux de gens en Chine. Quand tu es parti, il y avait peut-être 100 personnes qui se débrouillaient très bien en anglais. Donc, nécessité fait loi. Mais on voit que si on n'a pas cette maîtrise-là, et on l'a vu quand on a travaillé avec Siemens, quand on a fait la fusion Framatome-Siemens, KBU, hein, et que eux, tous, sans aucune exception, de tous ceux qu'on voyait, on en a vu des dizaines et des dizaines, ils parlaient très bien l'anglais. Nous, on avait du mal à aligner trois pelés intondus à notre niveau, hein, ingénieur, hein, qui se débrouillait honorablement en anglais. Hein. Donc, on l'a vu d'autant plus que, comme c'était toujours les mêmes, il disait, mais finalement, les Français, il y en a trois qui parlent anglais, là, à Saint-Martin, c'est nul, hein. Enfin, je caricature.
Mais l'enseignement des langues en France, c'était une catastrophe. C'est en train de changer, je pense. Hein. Mais c'était une catastrophe. Hein.
C'est l'enseignement.
Ah bah, ça c'est sûr.
Ça change, tu dis ?
Je pense, oui, quand même. Je pense, mais...
Bon.
Le temps qu'on fabrique des Français qui parlent les langues...
Le dialogue social, bon ben, on peut en dire aussi, le dialogue social, on sait ce que ça veut dire en France. Beaucoup de boîtes qui ont des difficultés parce que c'est des monoclients, et ça c'est un petit peu l'industrie automobile qui l'a favorisé. Hein. Michel, t'as dû voir des scénarios comme ça où il y avait des gens qui avaient 80% de leur carnet de commandes qui était chez un seul client. Hein. Et une fois que le client, la boîte saute. Hein, la boîte saute. Une critique des PDG parachutés, donc, et de comparer bien sûr aux Allemands, où on dit toujours, et c'est une réalité, c'est-à-dire même le fils de M. Piech, le Volkswagen, il commence dessinateur à la planche à dessin, machin, il finit PDG. Et pourtant, c'est un gars de la famille. Donc, c'est la méthode Schneider voilà. Et les Schneider ont fait comme ça. Les premières générations, après, ça s'est mal terminé. Bon, bon. Ne pas vendre les machines aux Chinois, parce que c'est le cœur de son bras ouf. Voilà. Alors, ça, c'est les causes internes. Causes externes. Donc, fiscalité du travail aussi, des marronniers incontournables et dont on nous gave du matin jusqu'au soir dans tous les journaux, grand public et économique. Fiscalité du travail, je passe rapidement. Le dialogue social avec la CGT, qui est bien connue. L'hostilité du corps enseignant. Alors, moi, j'ai des témoignages personnels alors, pas dans les métiers, pas dans le corps enseignant technique, parce que bon, il est pro-industrie, bien sûr, mais dans l'enseignement général, j'ai eu des professeurs qui ont violemment, qui étaient des marxistes militants, et qui disaient il faut arrêter le capitalisme, il faut arrêter l'industrie, etc. Et on nous serine ça du matin jusqu'au soir. Et donc, en troisième, en seconde, en première, en terminale, dans l'enseignement général. Ça, c'est très clair.
Hein? Il y a un film qui sort aujourd'hui.
Oui.
Intitulé Généraliste.
Oui.
C'est une enseignante de 55 ans qui l'a co-monté. Et elle explique comment elle a fait pendant 30 ans pour éviter aux enfants de seconde de ce qui est trop attiré par le technique pour plutôt viser le généraliste.
Ouais. Bon. C'est pas général, mais il y en a une quote-part suffisante pour que ça puisse avoir une certaine influence.
Sort en salle, ou...
oui.
Comment ?
Il est financé par France Culture, j'ai entendu ce matin à la radio.
D'accord, ils sont en salle.
C'est un constat qui d'être quand même un peu... Alors, je comprends ce qui est dit, parce que moi, je l'ai vécu.
Oui.
Quand moi, j'ai commencé en lycée. Donc, le début des... Enfin, dans les années 80. Ouais, il y avait encore une imprégnation assez marxiste dans l'enseignement. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Moi, je pense que depuis les années 90,
bon, je sais pas.
Enfin, moi, de ce que j'ai vécu, oui. le modèle était...
Écoutez, moi, je...
Et Marx n'est pas contre l'industrie, hein.
En plus, Marx...
Comment?
Marx n'était pas contre l'industrie.
Au contraire, mais oui, mais c'est
bon,
le paradoxe.
Ça me fait rigoler,
c'est le paradoxe. Il était industrialiste.
Il était capitalisme, oui, mais il n'était pas du tout contre l'industrie.
Oui, mais c'est comme
je
toujours...
Je ne sais pas pourquoi on dit ça, c'est complètement...
Oui, mais non, mais les gens qui se revendiquent d'une sensibilité marxiste sont souvent anti-industrie.
En revanche, ce qui est juste, je pense, il y a
jamais vu beaucoup de marxistes parmi les collègues enseignants, hein, je vous le dis, moi.
Eh ben, c'est
par
pas
contre, le... nous, les profs de sciences économiques et sociales, nous, on était traités gauchistes.
Eh.
Hein, parce que le CAPES de sciences éco, il a été créé très tard.
Eh.
Et, alors qu'on faisait un enseignement qui permettait quand même aux élèves de comprendre un peu comment se passait l'économie et la société. Pas rien que l'économie. On ne faisait pas de l'économie, plutôt moi, sociologique. Quoi, hein, mais on a été combattus tout le temps, nous, dans l'enseignement. Tout le temps.
Oui.
On était considérés comme des gauchistes. Oui,
pour contrebalancer ce que vous dites, là, ma fille aînée est prof d'histoire géo en collège. Et elle, ce que je viens de vous dire, c'est exactement ce qu'elle vit aujourd'hui.
Ah bon ?
Tous ses collègues d'histoire sont anti-industrie. Et font un pilonnage absolument extraordinaire.
Ah bon ?
Elle est la seule à dire le contraire.
Ouais, c'est étonnant parce que
c'est le sud-ouest.
Ah, peut-être, enfin je sais pas.
J'ai pas entendu.
Non, en revanche, ce qui est peut-être juste
industrie, hein.
Parce que il y a une subtilité quand même dans les positions, et ça vient plus des enseignants. Ça vient effectivement des parents.
Oui, ben c'est ce que je mets, c'est la phrase d'après. Est-ce qu'il était des parents?
Moi, je me souviens quand j'étais en lycée à Dole, que j'avais des élèves. Donc j'étais au moment où on dit 80% de casage au bac.
Oui, oui.
Bah oui.
Connerie monumentale.
Oui.
C'est-à-dire que 80% de casage au bac, mais au Japon, on incluait les bacs techniques.
Oui.
Et le problème, c'est que nous, on a mis 80% d'une classe d'âge dans les lycées classiques.
Oui.
Donc les gamins qui n'étaient pas faits pour... Et donc moi, j'avais
c'était une catastrophe en seconde.
Voilà, moi en seconde, j'avais des gamins qui venaient pleurer vers moi, en me disant « Monsieur, vous pouvez me soutenir ?» Mais je ne pouvais pas faire.
Oui.
Donc je me souviens de...
Oui. C'est les parents qui disent...
Moi je veux être coiffeuse, mais mes parents veulent à tout prix que je fasse un bac scientifique. Donc j'ai défendu son dossier en conseil, en conseil de classe. Effectivement, mes collègues me sont tombés dessus.
Oui.
Parce que je voulais appuyer son orientation vers les techniques, et là on me disait que j'étais élitiste.
Oui.
Donc en fait, donc là il y a eu
pendant très...
Oui, c'est lui.
Ben, c'est exactement les témoignages de ma fille.
Hein. Et voilà, d'après, j'ai sorti de là.
Ça vient de loin, c'est ce que je disais.
Et donc, je crois que
ça vient des Lumières en France.
Voilà, c'est ça.
Il faut remonter vraiment. L'Allemagne, on n'a pas du tout la même culture qu'en France, quoi. Il faut regarder l'histoire.
Et c'est vrai que
on a toujours mis en avant plutôt les études littéraires.
Oui.
Ça vient du 18e, 19e siècle. C'est pas
nouveau. C'est plus l'industrie que le capitalisme. Parce que la lutte contre le capitalisme chez les enseignants, je le vois plus. Mais c'est vrai qu'il y a eu pendant longtemps cette vision comme quoi l'industrie c'était ça. Alors, davantage que les enseignants qui, je pense, ont rapidement...
travail manuel a toujours été dévalorisé, hein, déjà.
Quand même vu ce qui se passe avec
par rapport à l'enseignement général.
Ceux qui font incriminer, ce sont les parents.
Ah bah oui.
Mais c'est ce qui est marqué dans la phrase suivante. Hein.
Plus que les enseignants, les parents sont détestables.
Voilà.
Moi, ça, c'est un truc que je ne supporte pas au lycée, c'est les parents des élèves.
Le
concept de communauté éducative me fait vomir. Ça doit se passer entre les élèves.
On a tous été parents d'élèves aussi. Hein.
Fouter les parents d'élèves dehors des lycées. Là, je crois qu'on améliorera l'orientation.
Bon.
C'est un truc très long, ça. Très très long.
C'est un peu le sujet.
C'est un peu.
Oui,
oui.
Donc.
Ça fait partie du sujet.
Ça fait partie du sujet, tout à fait.
L'effondrement des niveaux BTS et Bac Pro, bah, c'est lié au fait que la filière technique est considérée comme la poubelle de l'enseignement général. Hein, donc on connaît bien les causes. Les 35 heures, bon, on en a déjà parlé. L'euro, délocalisation, cause multiple, bon, voilà. Inflation des normes à tout niveau. Alors ça m'a beaucoup frappé. C'est dans les interviews, là, il y a 30 interviews d'industriels, ça revient dans les deux tiers des cas. L'Adréal, c'est-à-dire les mines, on va dire, ce qu'on appelait dans le temps les mines, alors ça revient comme une ancienne, et on nous dit, c'est des commissaires politiques, hein, de machin, et ils sont très, très bornés, et... à un moment, bah, il pète les plombs.
L'Adréal,
c'est
la direction régionale
de l'équipement. Il y a eu une fusion entre l'équipement et les inspections du travail.
Ah, d'accord.
Voilà,
ah, oui.
C'est le nouveau sigle.
L'inspection
si vous
du travail.
Oui, oui.
C'est l'ancienne DRIR.
D'accord.
C'est l'ancienne DRIR.
D'accord.
Voilà.
Ouais.
L'hostilité des politiques au niveau national, mauvaise image de la France qui ne travaille pas assez. Alors ça, c'est revenu. Les gens qui sont très internationalisés, ben, ils ont la pendule. Tous les gens vous disent, prof, les Français, vous foutez rien. Donc, on ne vous achètera pas.
Alors, c'est leur avis, mais en revanche, il y a un truc que je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'on est un des pays qui présente la productivité du travail la plus élevée? Donc, moi,
c'est vous, les entreprises.
Oui, mais
l'image du Français qui n'aime pas le travail. Voilà.
C'est l'affichage.
Ça a des niveaux différents.
Non, c'est l'affichage médiatique des 35 heures est perçu par les gens de l'extérieur. Vous foutez rien. Et on est productif parce qu'on arrive à faire la même production avec 35 heures. C'est aussi bête que ça.
Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à quelque chose qui est dans les débats actuels qui sont faux. Je crois que le président de la République va s'exposer bientôt à une prise de position de l'INSEE. C'est rare. Parce que l'INSEE...
Oui, c'est plutôt quand même pour le...
pour l'INSEE et la DARES disent, mais enfin, où est-ce qu'ils pêchent les statistiques sur lesquelles il s'appuie. En particulier, quand il dit les Français travaillent moins que les Allemands en quantité, il s'appuie sur la législation sur le temps de travail.
Oui. Mais pas sur la
le
réalité.
Problème.
C'est pas la réalité du temps de travail.
La réalité, c'est que les Français travaillent plus que les Allemands. De nombre d'heures de travail par an personne.
Voilà.
Non, mais si vous voulez, et c'est bien là que je vois, c'est bien le biais de communication, c'est-à-dire les gens de l'extérieur, vous allez en Chine, il y a des tas de gens, des industriels qui ont délocalisé en Chine. Oh, vous, les Français, vous foutez rien.
Les profs non plus, on fout rien, il paraît.
Hein?
Comment? Les profs, c'est pareil, on fout rien.
Voilà, ben oui, mais c'est
aussi l'image qui est véhiculée.
Non, mais, et ça, du point de vue commercial, c'est pas bon. Parce que le
et oui, en plus, avec vos impôts.
Voilà.
Il y a une question d'image de la France. Il y a aussi par rapport à la qualité. Oui. Il y a aussi ce rapport à la qualité. Je veux bien que dans les années 80, par exemple, les constructeurs français d'automobiles avaient un problème de qualité.
Oui.
Renault, par exemple, 86. Oui. Le coût qualité, c'est 2% de son chiffre d'affaires.
Oui.
Aujourd'hui, beaucoup d'enquêtes, notamment, j'ai lu il n'y a pas longtemps une enquête dans la revue CEPI, un centre d'études internationales qui disait les automobiles françaises sont à qualité équivalente avec ce que font les Allemands aujourd'hui.
Oui.
Eh bien, il y a toujours, malheureusement, à la fois chez le consommateur français et à l'étranger, cette image
qualité allemande.
Négative.
Cette image qualité allemande et la France mauvaise qualité.
Les Allemands, ils ont même plus de problèmes sur certains modèles aujourd'hui. Les Audi, ça casse.
Et on amplifie ce phénomène parce qu'Opel est bien passé dans le groupe Peugeot, etc. mais on continue à dire Opel, c'est la fabrication allemande, etc. Donc ça veut dire qu'on pousse la...
C'est l'effet d'image de marque, ouais, qui que, est très difficile à
inverser. S'il y a bien un constructeur qui a toujours eu des problèmes de fiabilité, c'est Opel. Alors que si Peugeot a eu un contrat avec Dongfeng en Chine, c'est bien parce qu'ils sont réputés pour avoir une fiabilité moteur hors norme sur les modèles bas de gamme. Et donc oui, il y a un problème d'image. Ça fait 2-3 thèmes qui sont évoqués, où on évoque une image de la France qui n'est déjà plus ça. C'est ce qui me choque beaucoup dans ce que j'entends. C'est qu'il y a des tas de choses qui ont été justes à un moment.
Oui.
Moi, j'ai eu des tas de choses sur lesquelles ça m'a énervé pendant longtemps. Mais le problème, c'est que j'entends ça depuis les années 80, comme si la France n'avait pas bougé depuis les années 80. Oui. Mais la France de 2022, c'est pas la France de 1980.
Oui, oui.
On a beaucoup progressé sur place.
Le problème, c'est que ça soit perçu effectivement par les partenaires extérieurs. Ouais, c'est ça.
Ça provient, enfin, il y a peut-être un biais méthodologique, parce que c'est quelqu'un qui fait une analyse à l'intérieur de son système à lui. Ça ne procède pas d'une audite généralisée, etc. C'est du French bashing qui peut être auto-alimenté par des propres acteurs des gouvernements français pour dire.
Non, mais là, tout ça s'est dit dans les interviews des industriels. C'est pas dit par les politiques. C'est dit par les industriels qui travaillent à l'extérieur.
Je suis d'accord avec vous. Il doit faire un tri. Comme par hasard, il y a certains thèmes qui sont pas évoqués, qui sont très importants dans le manque de compétitivité de l'industrie française. J'ai l'impression qu'il fait une sorte de tableau impressionniste, mais à partir d'une vision du tableau qu'il a déjà a priori. Voilà. Et c'est malhonnête, ça, comme démarche intellectuelle, au sein des marques. Non, mais c'est pas un scientifique.
A priori, selon la démarche qu'il a faite, il a interviewé du monde et il nous amène ce qui était sans le transformer, pour moi, ce que je vois.
Oui, non, mais.
Il l'amène sans le transformer, et c'est à nous. C'est à nous de trier et de dire on va.
C'est quand même une limite dans la démarche. Moi, c'est souvent ce sur quoi je me bats avec mes étudiants, c'est-à-dire qu'ils font du vérificationnisme. C'est-à-dire de dire j'ai déjà une idée en tête, et donc je vais aller chercher, celui qui pense comme moi.
Oui, mais ça, c'est...
Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire à mes étudiants
étudié,
si vous êtes de gauche, vous lisez les Échos, vous lisez le Figaro. Si vous êtes de droite, vous lisez Libé.
Voilà. Ça, c'est connu depuis très longtemps. Voilà. Hein. On regarde en fait, ce qui correspond.
Ce qui me dérange un peu dans la démarche, mais qui est intéressante, bien sûr, parce que vous avez raison.
Ça ne développe pas d'esprit critique, ça.
On donne la parole à des personnes qu'on n'a pas entendues. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il sait où il veut aller, il sait l'image qu'il veut donner, et il va aller chercher là où on va aller, comme lui.
La structure du bouquin va dans le sens que vous dites, et c'est ce que j'ai dit lundi. Je l'ai lu en diagonale, je l'ai lu sur une tablette en diagonale. Il démarre par la synthèse. Il fait sa synthèse. Le premier tiers du bouquin, c'est le truc. Et après, il y a des interviews. J'étais choqué.
Il confirme sa synthèse.
Je regarde les attendus, et puis je conclue après. Là, il conclut, il regarde les motivations, les motifs. Et ça m'a surpris, parce que moi, en fait, je l'avais vu à la télé, il était interviewé, son discours était intéressant. À l'oral, il est bon. Et là, ça m'a surpris. Et ça va tout à fait dans ce que vous êtes en train de dire.
Ce qui n'empêche qu'il y a des pistes qui sont parfaitement justes. Oui. Mais c'est la démarche que
ben c'est une démarche expérimentale, frelatée. Parce qu'en science, on arrive à poser des hypothèses. Si elles ne sont pas vérifiées, ben on s'est trompé, on passe à autre chose. Tandis que là, qu'est-ce qui veut dire qu'on s'est trompé?
Ça peut durer. Ce que vous soulignez, c'est un des problèmes actuels que se pose la science éco. C'est vrai que n'importe quelle loi scientifique dans les lois de la nature, un scientifique va publier un article dans Nature, ou je ne sais pas quoi. Il publie son expérience, bah, immédiatement, il y a des milliers de chercheurs qui ont essayé de reproduire l'expérience. Et c'est seulement au bout de...
Ça marche ou ça marche pas.
On va dire, voilà, c'est corroboré. On ne va pas dire c'est prouvé, d'ailleurs, c'est corroboré. Ça a été...
Mais la science, ça doit être ça, en fait. Ça
la
fait
science économique, c'est pas du tout ça.
Ah bah oui.
Et on a l'exemple type. Type. Vous avez un auteur de premier plan, qui était chercheur au FMI, qui publie un jour un article où il démontre, statistiquement, d'après lui, qu'au-delà de 90% du taux d'endettement, ça pénalise la croissance. C'est-à-dire que tant que l'État n'a pas 90% de dette, il peut stimuler la croissance en continuant de s'endetter. En dépassant les 90%, ça réduit la croissance. Et vous ouvrez n'importe quel bouquin de manuel de macroéconomie aujourd'hui, quand on fait une introduction et qu'on lit quels faits stylisés les théories doivent vérifier, il y a ça. Depuis 15 ans. Il y a 4-5 ans, il y a un étudiant australien ou néo-zélandais, c'est pareil, on nous emmerde au rugby, qui fait sa thèse et qui se dit « je vais vérifier ». Alors déjà, il s'est engueulé par son directeur de thèse parce qu'il est... On ne vérifie pas les... On s'en prend pas à Gordon, quand même. C'est... Il démontre deux choses. Première chose, que l'individu en question, il a écarté tous les constats qui n'allaient pas dans son sens. Et deuxième chose, aussi grave, il a fait énormément d'erreurs dans les codes Excel. Donc, il dit, l'étude de Gordon, c'est du pipeau. Résultat des courses, Gordon dit, oui, je me suis trompé, mais mon intuition est bonne. Eh bien, vous regardez dans les recommandations qui sont sorties du FMI il y a deux jours, on fait toujours référence à Gordon en disant, il a démontré qu'au-delà de 90%, le taux d'endettement est faux. Et donc là, et justement, on est un peu dans cette démarche-là, c'est que il y a des personnes qui énoncent des choses, et c'est un peu la prime
à la notoriété,
ouais, au statut, ouais. et c'est comme ça que justement des gens comme Ambroise Roux pendant des années ont enfumé tout le monde, d'accord. Comment il s'appelait,
Perlevade.
Qui est un scandale monumental, ce mec-là. Parce qu'il a fait au Crédit Lyonnais. Bon.
Ouais.
Partout où il est allé, il a créé du chaos. D'accord. Et encore maintenant, on le charge de rédiger des rapports publics. Alain Minc.
Oui, Alain Minc.
C'est la catastrophe.
Qui est le type même du... Alors, il a du style.
Ah oui, ça
faut
c'est
reconnaître qu'il écrit bien. Et il écrit bien, il parle bien. Mais c'est du vent.
Il a rien fait. Voilà.
Il a bien su se positionner là où
Nicolas Papres et tous ces gens-là. Et moi, c'est pour ça que... La méthode de l'essai me glace un peu. Je lis pas d'essai économique.
Oui.
Parce que, alors oui, si c'est Stiglitz ou c'est Krugman, bon, vraiment, parce que là, pour le coup, on est sur le top et on a des vrais intellectuels, dans le bon sens du terme. Moi, je préfère l'article et les revues, et je vois que monsieur a le cahier français. Excellent.
Je m'en servais beaucoup, moi, quand j'étais dans les cahiers français.
J'ai lu
plus maintenant.
En partie, et c'est bien foutu. Moi, je sais pas. Hein, il raconte des choses, mais est-ce que c'est vrai? C'est
oui.
Bon.
Non, mais,
c'est France Stratégie qui est derrière.
Voilà,
c'est.
Il y a France Stratégie, il y a CEPI, il y a tous ces gens, donc qui sont de vrais chercheurs.
D'accord.
D'accord. Et qui travaillent sur des thématiques avec autre chose que des interviews, c'est-à-dire avec des statistiques, avec des discours. Et voilà, c'est à dire que voilà, je préfère.
Pour faire le contrepartie, je vais défendre les essais quand même. Même si ça...
Non,
l'intérêt des essais, même si on est critique vis-à-vis de ces essais, c'est d'essayer de faire. Parce que où il y a un gros problème, et sur ce sujet-là, c'est que le public n'y comprend rien. Il voit que les usines disparaissent. D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, les essais, c'est une tentative plus ou moins réussie d'essayer de faire comprendre ça aux gens. Alors, les médias, grand public, c'est nul. En général, hein, on lance des anathèmes contre les patrons, contre les politiques, contre ceci, contre cela. Les syndicalistes disent il n'y a qu'un seul responsable, c'est les dirigeants d'entreprise. Tout le reste, ça ne parle pas. Il y a quand même deux interviews longues d'un gars de la CFDT et d'un gars de la CGT qui disent pas que des bêtises, hein, mais à aucun moment le mot mondialisation et chinois n'est prononcé dans les deux interviews. Ça n'existe pas. Tous les problèmes ne viennent que des patrons actuels des sociétés françaises en France. Voilà. Comment ? Non, il ne parle pas de la finance non plus. Non, il ne parle pas de la finance.
Quand même, c'est bien quand même la mondialisation qui a structuré le monde d'aujourd'hui.
Aucun syndicaliste ne met le mot mondialisation dans les termes. C'est quand même
impressionnant. La France, c'est un petit truc là dans un énorme truc.
Et c'est vrai que c'est bizarre qu'il parle.
Qu'on a libéralisé, parce que vous parliez justement tout à l'heure dans votre conférence, ça, sur la libéralisation des mouvements de capitaux. Ouais. Mais on a tout libéralisé à partir des années 70. Donc on ne va pas se plaindre maintenant, je veux dire, tout peut passer d'un pays à un autre, donc forcément. Hein.
Oui, mais
là où c'est le moins cher, on va le fabriquer.
On ne l'a pas tous vécu de la même façon, et je pense que, notamment...
Là, on est en train de prendre conscience de tout ça.
C'est toujours énervant, cette référence à l'Allemagne.
On peut prendre de temps en temps aussi des autres pays du Nord. La Suède, le Danemark, voilà. Il veut bien qu'on les prenne de temps en temps.
Alors, ce qu'il y a de commun entre l'Allemagne et les pays du Nord, par rapport à l'industrie, et je crois que ça, c'est absolument essentiel, parce que ce qui était dit tout à l'heure, par exemple, sur les chaînes de valeur, oui. Le fait que les industriels français voilà, sont partis s'installer comme ça, c'est vrai que vous achetez une Renault aujourd'hui.
Oui, et c'est fait, c'est au Maroc.
Emploi créé en France, zéro.
Oui, oui. Voilà.
Bah, Pianchi,
la seule façon d'acheter une voiture et puis de créer des emplois en France, c'est d'acheter une Yaris.
Oui. Oui, Toyota. Bah,
Toyota.
Je dirais, il y a plein de choses
donc,
comme ça.
Il y a quand même une façon de si on prend groupe par groupe, alors c'est vrai que l'automobile, c'est toujours symptomatique, ça reste symptomatique, c'est intéressant. La façon dont les Allemands ont vécu la mondialisation et nous.
Oui.
L'ouverture de l'Europe,
oui.
Eh ben, ils ne l'ont pas fait de la même façon.
Non.
Et quand même, ce qui est intéressant, c'est que on a des chercheurs français qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Et il y en a un en particulier, je le cite un peu, c'est un côté affectif, puisque je l'ai eu comme enseignant quand il a débuté à l'Université de Franche-Comté, Jean-Luc Gaffard, qui était responsable d'ailleurs de la division économie industrielle à l'OFCE, qui montre bien que les Français, les grandes entreprises françaises, quand il y a eu le mouvement de mondialisation, ça a été l'ouverture au marché. C'est-à-dire, on ouvre le capital au marché.
Partout.
Sous-entendu, on va retrouver qui dans le capital des grandes entreprises ? Des fonds de pension américains, des sociétés d'assurance. Bon. Ces gens-là, ce ne sont pas des industriels.
Non.
C'est-à-dire que ce soit dans une entreprise de l'automobile ou dans une entreprise de petites culottes, ils s'en foutent, ce qui compte, c'est le rendement.
Bien sûr.
Et donc, ils veulent du rendement à court terme. La seule façon d'avoir du rendement à court terme, c'est de découper l'entreprise.
Oui.
Ça, ça finance aussi.
Et c'est comme ça que la CGE, qui était quand même... Alors, une fois Ambroise Roux disparu, d'accord.
Oui, mais enfin, les successeurs, ils n'ont fait qu'enfoncer la barre.
C'est-à-dire qu'Action Directe, au moins, aurait
pu... Il y a eu Suard et
Tchou. Nous débarrasser d'Ambroise Roux plutôt que Georges Bess. Eh bien...
Oui, mais Roux, ça commence par R et non pas par A.
Voilà. Oui, donc, Le problème, c'est que vous aviez la CGE, qui était un groupe multifonction,
oui.
D'accord, qui concurrençait Siemens,
oui. Oui.
Et qui leur mangeait. Il n'y a pas que Siemens, ils concurrençaient General Electric également. Oui. C'est-à-dire que c'était un groupe au niveau mondial qui faisait peur. Oui. Et surtout, quand il y avait une activité qui était en ralentissement, oui. Ils pouvaient compenser sur une autre. Oui. Et le démantèlement de la CGE. Merci Édouard Balladur,
oui.
D'accord, parce que dans les responsables, il faudrait le citer aussi.
Oui, 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 oui.
Ah, parce que alors, le Bourbon, il nous a coûté cher. Lui et Ambroise Roux nous ont coûté très cher. Ils ont démantelé à l'infini. Les Allemands, bah oui, mais le problème, c'est que les Allemands n'ont pas ouvert leurs entreprises au marché financier. Ils sont restés sur le modèle de financement des années 70, avec des banques d'affaires.
Oui.
Il faut relire Thomas Mann et puis les Budenbrock.
Oui, oui.
Voilà.
Oui, oui, oui.
C'est les banques d'affaires qui sont là, parient sur une entreprise, et puis après, ils sont actionnaires de l'entreprise, pas à vie, parce que ça n'existe pas, mais ils la soutiennent.
Mais l'essentiel de ces entreprises, ce sont des entreprises familiales.
Oui,
encore une
mais
fois,
en lien avec le secteur bancaire.
Oui, mais local.
La séparation
local.
En France entre banque d'affaires et banque de dépôt. Puisqu'à un moment, justement, on a enlevé cette distinction. C'était dans toute l'Europe ou
non, c'était dans tout le monde entier. Parce que
dans le monde entier.
La séparation banque d'affaires, banque de dépôt, c'est 1933,
oui, oui,
le Stiegel Act. Aux États-Unis.
C'est dans les années 70 aussi où on a un peu plus.
Alors,
c'est
la France qui, la première en Europe, a permis le rapprochement entre les banques de dépôt et les banques d'affaires.
Ouais.
Et c'est une réglementation de 1969 de Michel Debré.
D'accord.
Donc,
et ça n'a pas pu jouer, ça, dans le fait d'investir dans les industries, quoi.
Mais bien sûr, je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que la banque de dépôt s'est emparée de la banque d'affaires, elle a diversifié ses activités, alors qu'elle n'était pas, pas faite pour. Ouais. Donc, comme elle l'a fait par le plus le biais de la finance, je place mon argent.
Immobilier.
La banque d'affaires allemande, c'est l'histoire de cadres supérieurs de la banque qui connaissent l'industrie sur le bout des doigts.
Ouais, c'est ça aussi.
Et qui ont, là-dessus, je pense que ce que vous disiez tout à l'heure sur les Allemands, c'est profondément juste, qui ont cette fibre. C'est-à-dire, c'est un peu un enjeu pour eux. Voilà. Je suis banquier, mon succès, c'est pas forcément les zéros que je vais ajouter. Mon succès, c'est je suis banquier de telle entreprise qui a réussi, etc. Et ce qui fait qu'ils ont des exigences en termes de rentabilité qui ne sont pas les mêmes que chez nous. Justement, l'économiste que j'évoquais montre très bien, par exemple, vous avez des groupes comme Alstom qui sont capables d'avoir des taux de rentabilité à court terme beaucoup plus élevés que Siemens quand le marché est hyper porteur. Puis après, si le marché se tasse un peu, d'un seul coup, c'est à des dégringolades. Donc Siemens, c'est on ne fait pas le yo-yo, on a des taux de rentabilité qui sont...
Parce qu'on réinvestit.
Voilà.
Parce qu'on réinvestit.
C'est l'investissement.
Les actionnaires,
l'investissement qui permet.
Les actionnaires qui sont des banques, qui ne sont pas des fonds de pension. Mmh. Les actionnaires disent, bon voilà, ce taux de rentabilité nous va bien. Donc résultat des courses, par exemple, quand Mercedes veut affronter la mondialisation, ils vont chercher des sous-traitants effectivement à l'Est, ça ils le font, ils ont baissé leur coût de production comme ça. En revanche, quand vous achetez une Mercedes, elle vient d'Allemagne.
Oui.
C'est-à-dire que là où la valeur ajoutée est la plus élevée, à la fin, c'est resté en Allemagne.
Oui.
Alors, on peut dire après tout ce qu'on veut.
Je peux faire un témoignage là, à ce sujet-là, parce qu'on a eu la chance, on a fait un voyage UTB en Allemagne centrale, c'était en 2014, voilà, j'allais dire 2015, tu y étais. La dernière truc qu'on a visité, une usine Mercedes au nord, enfin, j'ai oublié le nom, c'est pas Stuttgart, non, c'est sur la vallée du Rhin. Hein. C'est au nord de Strasbourg, mais en Allemagne. Hein. Et donc, c'est une usine ultra moderne, ultra robotisée, très impressionnante. Hein. Bon, très bien. Et en plus, comme elle était récente, elle avait été conçue pour faire du tourisme industriel, c'est-à-dire qu'il y a le système de la mezzanine qui recouvre tout. Bon, d'abord, ça permet de séparer les flux entre les visiteurs et les gens qui bossent. Hein. Puis, il ne faut pas se balader au milieu des robots parce qu'il y a des cages pour empêcher de se faire décapiter, mais quand même, faut quand même faire attention. Et, bon, et donc, c'était une Française qui habite en Allemagne qui nous a fait la visite, en français, bien sûr. Et elle a fait une petite introduction, mais il y a un truc qui m'est retenu, il a dit... On sait vraiment, enfin, la direction de Mercedes s'est vraiment posé la question s'il allait construire cette usine ou la faire à l'étranger. Et ça a été longuement pesé, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à l'allemande, et il y a les pour, il y a les... Et finalement, c'est peut-être la dernière usine qu'on fera encore en Allemagne, 2014. C'est ce que la... Hein ? C'était pas à Stuttgart, c'était une petite... Non, c'est...
Côté,
à côté. Oui. Le... Et alors là, c'est resté imprimé là par là. Donc même le débat, même pour les Allemands, très Allemands, et je reste sûr, puis les fourmis dans les doigts pour dire... est-ce bien raisonnable? Alors aujourd'hui, vu le contexte géopolitique, tout ça, on remet tous les compteurs à zéro et voilà.
Il peut mener les mois à mettre en avant aussi, c'est que quand on regarde le fonctionnement des conseils d'administration allemands, moi j'ai un cours d'économie industrielle, justement, je développe la théorie dominante en termes d'organisation, voilà, celle que, alors, en France, on pratique vraiment en disant bah oui, c'est la Bible. En fait, ce que démontrent ces analyses auxquelles les Français croient, c'est que l'entreprise allemande, elle n'est pas viable. Ben oui, elle n'est pas viable. Ah bah oui,
pourquoi?
Le problème, c'est qu'elle est viable, justement.
Pourquoi?
Et ben, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui est quand même assez caractéristique. Une vraie différence entre la France et l'Allemagne, pour les grandes entreprises, pour les PME, je ne sais pas, là je ne m'avancerai pas. Mais la composition du conseil d'administration, c'est fondamentalement différent. Le poids des salariés dans le conseil d'administration, il est colossal.
Oui.
D'accord ? Ce qui fait que, quand on parle de cette qualité de la cogestion allemande, c'est bizarre, on n'en parle pas, la cogestion allemande.
Bien sûr.
Alors, la cogestion allemande, si vous faites un sondage, vous dites, ah oh, oui, c'est parce que les Allemands, ils sont plus disciplinés que nous. Moi, quand j'étais militaire en Allemagne, j'ai assisté à des manifs organisés par IG Metall. Hein. C'est on casse d'abord, on discute après. Hein. Quand ils mettent une manif, les Allemands, ils font pas semblant. Non, je pense que la cogestion...
Bah, c'est aussi, encore une fois, la culture, et notamment l'histoire des syndicats.
Alors, c'est plutôt l'histoire.
Bah oui, mais ça en fait partie.
Voilà. Parce que je pense que...
Quand on regarde comment les syndicats sont constitués en France,
ils sont
constitués contre les patrons. Oui, mais il faut voir l'histoire.
Oui.
19e siècle, avec la loi Le Chapelier, on n'a pas pu constituer de syndicats avant la fin du 19e. Et quand ils sont constitués contre les patrons. Tout le 19e siècle, c'était la loi des patrons. Enfin, moi, je vois comme ça.
Oui,
en Allemagne, ils ont toujours été co-gestionnaires.
C'est ça le problème.
Il y a quand même un taux de syndicalisation beaucoup plus élevé qu'en France.
Mais c'est récent.
Non, mais ça dépend quand est-ce qu'on fait partie de toujours. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier qu'au début du 20e siècle, les syndicats allemands sont plus révolutionnaires que les syndicats français.
Oui.
Ah bah, révolutionnaire peut-être.
Eh oui. Mm-hmm. Et ce qui fout tout, enfin ce qui fout tout en l'air, oui quand même. c'est quand même l'histoire du Troisième Reich.
Oui.
C'est-à-dire que la crise qu'ils ont dans les années 20, c'est une crise sociale, politique. Le modèle explose. Bon. Et puis, il ne faut quand même pas oublier que les syndicats allemands se sont trempés dans le nazisme. D'accord, les premières troupes SA, Hitler, il les pêche ou ça, dans le Parti communiste, Parti communiste allemand. Le patronat allemand.
C'est le patronat.
C'est du prix concours, je ne sais plus.
La dernière réunion. Voilà. Oui, je l'ai lu, ce bouquin.
Voilà. Où il y a le patron de Daimler, le patron de BSF, le patron de Kodak, etc.
Et qui se fait engueuler par Hitler.
Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est fondamental dans l'histoire de l'Allemagne. C'est pour ça que moi, la culture des peuples, j'y crois pas. Moi, la culture des peuples...
C'est quand même la culture.
Il y a une unité anthropologique de l'homme. L'homme est un con partout.
Oui, mais...
Et quand j'ai dit l'homme...
C'est l'ordre du jour.
Quand même.
Et quand...
Le livre.
Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça.
C'est l'ordre du jour.
Ouais. Quand je dis l'homme, c'est le genre humain. Et il y a un truc, moi, je crois, qui est fondamental dans l'histoire de l'Allemagne. J'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de l'Allemagne pendant des années parce que, effectivement, c'est un pays qui me fascinait. Moi, maintenant... Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont détruits. On ne va pas pleurer, ils ont mérité. Moi, on ne fera jamais pleurer ce bombardement d'Hambourg. Je n'aurais même encore mieux, un peu plus. Ils se reconstruisent avec le plan Marshall. Plus que nous. Mais il faut quand même bien voir qu'il y avait une condition dans le plan Marshall. C'est-à-dire qu'ils étaient sous domination américaine qui leur disait « Vous recommencez pas vos conneries ». Et donc on se trouve avec des partenaires sociaux, patronat, syndicats, qui se sentent, vous me passerez l'expression, mais ils se sentent merdeux, quoi. Ben, ils peuvent. Et ils savent qu'ils n'ont ils ont pas le droit à l'erreur. Et donc... Ils peuvent pas se crêper de chignon comme on va pouvoir le voir en France avec la CGT et puis le patronat dans toutes les usines. Ils sont obligés de collaborer. Et je crois que la cogestion allemande,
ça viendrait de là.
Elle repose sur la confiance qu'ils ont mutuellement. Et je pense que ça part de là, c'est-à-dire que le patronat allemand sait que au départ, il faut qu'il cède certaines choses. Les syndicats allemands savent qu'ils ne peuvent pas réclamer n'importe quoi. L'Allemagne est détruite. Je pense qu'ils prennent des engagements communs. Les engagements communs sont respectés. À la période suivante, qu'est-ce que vous faites? Vous avez confiance. Et de proche en proche, comme ça, le fait que les syndicats allemands sont beaucoup plus représentés dans les conseils d'administration. Et regardez ce qui s'est passé. C'est pas une marotte, mais pour revenir sur l'histoire de la baisse du temps de travail, je voudrais pas apparaître comme un fanat des 35 heures. La méthode m'a pas plu. Il y avait mieux à faire, c'était d'utiliser mieux la loi Robien, qui avait été votée avant. Regardez les Allemands, la baisse du temps de travail. Faut pas oublier que Volkswagen... Enfin, VAG, a expérimenté les 35 heures 10 ans avant nous. Et de quoi c'est venu? C'est les syndicats allemands qui sont arrivés devant le patronat allemand. Alors déjà, une chose qu'il faut savoir, en Allemagne, le patronat n'a pas le droit de refuser une négociation. En revanche, un syndicat n'a pas le droit de déclencher une grève avant négociation. S'il déclenche une grève avant négociation, il est hors la loi. Donc, les syndicats demandent des négociations, le patronat allemand est obligé de les accepter. En France, vous avez plus des deux tiers des demandes de négociation qui ne sont pas acceptées par le patronat. Donc, vous avez là.
Oui, c'est une force, ça, quand même.
Et chez VAG, ce qui s'est passé, c'est que les syndicats sont arrivés en disant voilà la conjoncture. La conjoncture. Visiblement, vous allez être amené licencié. Et la direction dit effectivement, on se demande si on ne veut pas licencier. Donc, nous, on vous propose un plan alternatif. On vous propose un plan alternatif, baisse du temps de travail pour sauver les emplois, et en contrepartie, voilà ce qu'on va faire pour obtenir des gains de productivité. C'est eux qui apportent les solutions. c'est pas une attaque contre les ingénieurs.
Non, mais
ils attendent pas que ça vienne
les négociations.
Voilà. Non, mais je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Voilà. Là,
et la cogestion, la cogestion allemande, c'est ça. Et je pense
c'est une
que
force, hein.
On a les syndicats qu'on mérite en France. Et les entreprises, le patronat français a les syndicats qu'il mérite.
Ouais.
Voilà. Je ne défends pas la manière de pratiquer les syndicats français, mais je n'oublie pas que dans le syndicat, il y a aussi MEDEF. C'est pas le patron, c'est pas le patronat le plus bête du monde, mais c'est un candidat au trône.
Non, mais le problème en France, ni le MEDEF, ni les syndicats ne sont représentatifs de la masse des salariés. Au sens, c'est ça le problème. Hein.
Combien de pourcentage
voilà, donc c'est le problème, le pourcentage de syndicalisés.
Le plus faible.
Mais c'est vrai que c'est eux qui ont inventé sur le tas ce qu'on appelle aujourd'hui le chômage partiel, que nous on a réinventé, mais en venant du haut.
Voilà.
Donc voilà. C'est le chômage partiel. Voilà.
Et puis après, bon, il y a la question des PME, vous évoquiez tout à l'heure, qui n'est peut-être pas assez évoquée. Ça aussi, il faut peut-être qu'on se... C'est pour ça qu'on peut s'inspirer quand même de l'Allemagne sur certaines choses, pas surtout, hein, parce que les lois Hartz, c'est un scandale. Ouais. Voilà. Pas étonnant, le Premier ministre qui a amené ça, on sait où il a terminé.
Oui, chez Gazprom.
Ça nous prie. Mais les PME allemandes, il ne faut pas oublier que quand on regarde une balance des paiements allemandes, et qu'elle, on a maintenant la possibilité d'avoir des balances des paiements vraiment détaillées sur l'origine des échanges. Ce qu'on ne pouvait pas avoir il y a 20-25 ans, on avait des balances des paiements globales. La puissance exportatrice allemande, elle ne vient pas des grands groupes. Il y a bien effectivement des PME. Et le gros problème, quand on compare le tissu industriel allemand et français, en France, vous avez plus d'entreprises qu'en Allemagne. Mais on est beaucoup dans... Alors, pareil, je ne sais pas vous, mais moi, dans mon enseignement, PME, c'est le genre de truc, ça m'énerve.
Ça veut rien dire.
Il y a les petites ou les moyennes.
Oui.
Voilà. Donc il y a les petites entreprises, il y a les moyennes.
Non, mais on a inventé un nouveau titre, c'est ETI.
Voilà, oui,
ETI.
En dessous de 10 salariés, c'est vraiment les très petites.
Et donc, nous, on a
entreprises de taille intermédiaire.
On a beaucoup d'entreprises dans le P. Voilà. Alors que.
Très petites.
Voilà, les Allemands ont beaucoup d'entreprises.
Faut dans
les 500. Voilà, les 500. Alors, on dit moyenne entreprise, patron d'une boîte de 500 salariés. Ça cause déjà. Et toute la question, c'est comment on peut faire grandir. Qu'est-ce qui fait qu'en Allemagne, un patron, je ne sais pas, il crée une entreprise de découpage. Voilà, c'est le truc le plus traditionnel pour la PME. Oui, Besançon, on en a bien plein. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, 20 ans plus tard, cette boîte qu'il avait commencé avec 20 salariés, par exemple, va se retrouver avec 200, 300 salariés
Parce qu'il parle anglais.
Non, ça, je n'en sais rien. Moi, je crois que, pour le coup...
Pas les salariés, mais les gens qui vendent les machines.
Oui, mais il y a le fait... Parce que le nerf de l'argent, c'est la guerre, quoi. Et je crois que... Où il y a vraiment un truc qu'il faut
écoutez, alors, bon,
c'est le financement
Allez.
L'orientation de l'épargne.
Les héritiers sont des ingénieurs.
Je vous raconte une anecdote. Je cite ma source, c'est Véron. Véron, c'est un conférencier brillant, un ancien diplomate qui a fait de la géopolitique. Il est mort. Paix à son âme. Il nous a des bonnes conférences. Son dernier poste, il était diplomate à Bagdad en 2003. Il s'est passé un truc à Bagdad en 2003. Et il a été un des derniers à être évacué, donc dans des conditions difficiles. Bon. Et il m'a raconté un petit peu comment ça se passait. Donc il l'a évoqué d'ailleurs, pas directement l'anecdote, mais enfin l'atmosphère générale. Ce qu'il a dit en particulier, en Syrie, il y avait une classe moyenne. Et la guerre de 2003 a tué la classe moyenne syrienne. Et c'est vrai que Hussein, c'était un boucher, mais il y avait une classe moyenne. Donc la guerre a tué la classe moyenne et il n'y a plus que les djihadistes pour remplacer le trou. Mais ce n'est pas le sujet. On revient aux entreprises. Il a dit, je vois dans les services de l'ambassade, il y a le support de l'ambassade pour l'exportation industrielle, machin. Donc à l'ambassade à Bagdad, il y avait 32 personnes pour s'occuper du boulot. Bon, très bien. Et puis il y a l'ambassade d'Italie qui était juste à côté, il y avait une demi-personne. Alors on dit, regardez, alors, qu'est-ce qu'ils font comme, disons, le chiffre d'affaires des Italiens était le double de ceux des Français. Alors qu'est-ce qui se passe? Les 32 personnes, ils ne parlent qu'au râteau supérieur. Les Alcatel, CGE, Air Liquide, et machin comme ça, et tout, et tout. Bon, les Italiens, ils font rien, ils font de l'accompagnement puis de la traduction, et c'est les PME de la vallée du Pô qui, eux, parlent arabe et anglais, et sillonnent la Syrie et vendent leurs machines. Voilà.
Oui, alors avec. C'est pas suffisant quand même. C'est-à-dire que l'industrie italienne, la vallée du Pô et puis d'autres vallées, oui. Qui fonctionnent en district, oui. Hein, district italien, c'est une organisation industrielle aussi.
Oui,
qui
est différente. Et donc, il a dit. Lui, il a fait du conseil pour les entreprises après qu'il ait quitté. Il a dit, j'ai essayé de dire, on rentre dans les systèmes, voilà, je te donne le nom de la personne qui s'occupe de tel ambassade, machin, tu vas y aller, machin. Qui c'est celui-là? Moi, je ne le connais pas. Donc, il est refusé. Il est refusé par la délégation. C'est pas Air Liquide, mais c'est la société Tartampion de Chalon, là. C'est où Chalon? Ça ne nous intéresse pas. Il a qu'à se débrouiller, il a qu'à venir, machin. Alors après, il va voir la boîte. Bon, il n'y a rien à tirer de l'ambassade. Ce que vous allez faire, je vous ai trouvé un prospect. Et là, votre produit, il est génial. Il dit, à Aix-en-Provence, il m'a même cité le nom de la société. Vous savez ce que les gars lui ont répondu? Mais non, les gars, il est tellement génial notre produit, il faut que ce soit les Arabes qui viennent chez nous pour qu'on leur fasse un topo. On ne veut pas aller là-bas. Vous êtes fous.
Oui, ben c'est possible. Non, mais il y a des pratiques commerciales.
À part le premier râteau où il y a des structures qui diffusent dans le monde entier, la PME de base, c'est pas toi qui me dirais le contraire, elle n'est pas équipée ni en homme ni en culturellement pour se diffuser dans le monde entier.
La première fois que je suis allé en Budapest, c'était en 68, un truc comme ça, à l'hôtel où on était obligé de. Tous les étrangers étaient réunis le matin, on était 30 à peu près, il y avait un drapeau français, il y avait au moins 7 ou 8 Italiens, des Turcs, mais un Français, c'était moi.
Donc, c'était le meilleur.
Voilà, c'est tout, le résumé il est là.
Voilà.
Donc, c'était retrouvé, il faut essayer de se rendre.
Et moi j'allais le voir, même pas pour voir, c'était pour donner des sous à un agent. Un agent commercial. Commercial. Oui. Donc ça n'avait rien à voir encore avec une démarche commerciale pure. D'aller voir quelqu'un. Tout seul français. Voilà.
Oui, mais alors justement, quand on est sur des pratiques de ce type, c'est quand même un problème de management.
Bien sûr.
Donc,
Oui, mais il y a un effet de masse critique, si vous voulez. Déjà, on a un handicap, je parle encore de l'anglais, il y a ce handicap-là, mais vous savez bien qu'historiquement, le français, c'est un peuple qui n'a jamais immigré. Ni les Irlandais, les Allemands, les Polonais, les Irlandais, les Anglo-Saxons, les machins, ils ont tous émigré, il n'y en a qu'un qui n'émigre pas, c'est le français. Parce que le français, c'est bien, moi je suis pas chez moi, je n'ai pas envie de. Voilà, hein? Ben oui, mais.
Toutes les motivations, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais.
Oui, mais justement, on n'a pas un ressort profond sociologique de dire je vais essaimer dans le monde entier.
Alors, ça c'est intéressant parce que c'est, on a le désavantage de. Enfin, on a le défaut de nos avantages. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte et c'est ce qui me rend très pessimiste. Moi je crois que, bon, l'Europe. C'est fini, quoi. C'est-à-dire que la civilisation européenne est en train de... alors, il y a un recul relatif, mais ça, c'est
normal.
C'est normal.
Si les autres avancent, nous, on reste sur place. Donc
non, mais c'est normal. Bon, il y a un gâteau qui est à peu près le même à se partager avec davantage de pays. Bon, voilà. Bon. Et puis, on était quand même... le centre du monde, oui, économiquement. Oui, oui. Et puis, le problème, c'est que c'est tout le problème des vieilles structures, quoi. Oui. C'est-à-dire que les pays jeunes, ils n'ont pas toute la tradition à tirer. Parce que quand vous adaptez aux nouvelles configurations du moment, alors que vous êtes sur des structures qui ont été forgées au cours des siècles. À chaque fois, vous êtes obligé de taper dans des avantages acquis. Oui. Et les avantages acquis, c'est pas que les salariés.
Oui, c'est global.
Et le problème, c'est que la science politique aujourd'hui, elle a ce concept qu'elle a emprunté en fait à la science économique, c'est le sentier de dépendance. C'est-à-dire que l'histoire, surtout si elle est longue, elle vous place sur un sentier de dépendance. Alors j'ai employé l'image qu'avait employé quelqu'un que je déteste, Claude Allègre, quand il parlait « faut dégraisser le mammouth », bon, ce qui était une connerie monumentale. Mais bon, l'idée, elle est juste. C'était de dire que quand vous avez des structures comme ça, des institutions qui sont très très anciennes, elles sont pas adaptées pour affronter un renouvellement du cadre mondial, et c'est très très dur et c'est très très long à réformer. Alors que les pays jeunes, ils partent d'anglais. Regardez l'Inde, on parle beaucoup de la Chine, mais aujourd'hui les spécialistes de l'économie internationale nous disent non.
C'est l'Inde
qui dominera la fin du XXIe siècle, ce sera l'Inde.
Oui.
Bon, moi les prophéties, j'aime pas trop. Oui. Mais pourquoi? On a des monographies industrielles qui sont publiées actuellement qui montrent que quand ils créent une entreprise, ils n'ont pas tout ce poids du passé.
Ils ont été colonisés. Justement, quand vous parliez du textile de l'Angleterre, ça me faisait rigoler.
Oui, non, mais
on l'a piqué à l'Inde.
L'Angleterre
a empêché l'Inde de se développer au niveau du textile.
Pour l'économie de marché. C'est-à-dire que quand ils créent des entreprises...
Oui, mais ça, c'était délibéré.
C'est-à-dire que quand ils créent des entreprises...
Pour l'Angleterre, de la colonisation.
Elles sont d'emblée formatées sur le fonctionnement de l'économie mondiale aujourd'hui.
Moi, je suis pas d'accord. Moi, je veux dire qu'un truc, les prix Nobel, les médailles Fields, combien? Zéro. Les pays jeunes, zéro. Donc quand ils commenceront à nous tirer la bourre, à nous, aux Américains... à nous tirer la bourre en prix Nobel et en médaille Fields, ok.
Bon, oui.
Ils pourront envisager un avenir. Pour le moment, ils sont...
Mais les gens qui ont prix Nobel...
Je vais vous poser la même question. Combien de prix Nobel de physique, de chimie, pour les Japonais?
Bon, ils sont à l'ouest, les Japonais.
De physique, il y en a un.
Au point de vue industriel, je ne sais pas si
les Japonais ont beaucoup de Nobel, ils n'en ont pas.
Si, ils en ont quelques-uns.
En physique,
oui.
Ils sont inexistants, les Japonais.
Au niveau industriel?
Ils se sont effondrés dans les années...
Ils se sont effondrés du point de vue de la conjoncture. Interne. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi, à réanimer l'activité interne. Mais dans les entreprises exportatrices japonaises sont toujours autour.
Ouais, ouais.
Peut-être je me suivrai, c'est quand vous évoquez la culture scientifique, on est bien d'accord.
Ouais.
Mais c'est ça le problème. Regardez, la France est un des pays qui a sans doute qui est dans les pays qui a le plus de médailles Fields. Ouais. Parce que et on est dans les derniers en termes de culture mathématique aujourd'hui dans les pays industrialisés. Ouais. C'est-à-dire que nous, c'est toujours le sablier. C'est toujours la question.
Il n'y a que la pointe, et puis le reste.
On a une pointe qui est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas tortiller. Regardez, un truc, j'en parle souvent avec mes étudiants, parce que ça les branche, cette question-là. Vous voyez, comment vous expliquez la difficulté de l'automobile française à s'imposer dans le modèle haut de gamme? Ils me disent. Bah, c'est nos ingénieurs qui sont nuls. Ils sont nuls. Nos ingénieurs d'automobile, ils travaillent tous chez BMW, chez les grands. Voilà. Parce que le problème,
c'est les commerciaux qui sont mauvais.
Bah, non, mais on a un décalage énorme. Et alors ça, dans votre PowerPoint, ça paraissait très bien. On a un décalage énorme entre une élite qui est vraiment top niveau, et puis le reste. Et le problème des ingénieurs français de l'automobile, ils vont vous faire des prototypes, ils vont vous faire des moteurs de F1 exceptionnels, d'accord ? Chaque fois que Renault fait des... Alors, je déteste la F1, mais bon, ça permet la remontée, donc j'utilise. Chaque fois que Renault s'est lancé dans la
des épisodes
dans la F1, ils étaient champions du monde.
Non, justement, c'est pour ça qu'il faut
quand il s'agit
de faire remballer les clous,
des temps fermés haut de gamme, c'est-à-dire que il n'y a pas que les ingénieurs, il faut ensuite que tout l'atelier suive. Là, on est nul.
Les commerciaux, ils en ont sorti, ils ont essayé, ça a marché.
Oui, mais ça marche pas
parce que c'est l'image de marque. On est toujours dans le problème de dire comme c'est français, c'est nul. Voilà, même si ça ne l'est pas. Oui, mais enfin, c'est pas de chanter que c'est.
Mais là, ils sont en train d'évoluer très fort.
Et puis raconter que les Français sont venus.
Ce qui se passe depuis des très longtemps en Iran, où les femmes qui portaient le voile, dans la rue, arrivaient chez elles, elles enlevaient le voile, elles fumaient des clopes et puis elles buvaient des coups. Et c'est ce qui est en train de se passer en Inde, c'est-à-dire que l'élite est en train de tourner le système des classes.